Voici les deux textes liturgiques pour ce 14e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Galates. Mes frères, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Vous êtes conduits par l'esprit et vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et autres choses semblables. Je vous déclare, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent de telles choses ne posséderont point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la longanimité, la douceur, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Contre de pareils fruits, il n'y a point de loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans ses greniers, dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, pourra ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez les lys des champs comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne le fera-t-il pas plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous mettez donc point en peine, disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous? » Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Veuillez vous asseoir. Ainsi d'abord quelques annonces. Donc encore une fois, les messes en semaine ont toujours lieu à l'oratoire de Marie à Padiès. Et ici, nous aurons les messes tous les dimanches et fêtes d'obligation. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, donc demain, lundi, messe à 8h. Mardi et mercredi, il n'y aura pas de messe, parce que j'ai ma mission à Nantes. Jeudi, vendredi, messe à 8h et samedi, messe à 10h. Mercredi soir, nous aurons à Padiès le cours de doctrine sur les actes du magistère. Je suis en train d'expliquer la grande encyclique de Saint Pédis, notre charge, Pachendi. Je remercie encore tous ceux qui continuent d'envoyer des dons, souvent que je ne connais pas, je n'ai même pas parfois leur nom, je ne peux même pas les remercier. Donc qu'ils soient remerciés ici, j'en ferai tous les jours mon rosaire pour tous les bienfaiteurs. Donc ces dons vont nous aider à terminer de finir les derniers travaux. Il faut encore terminer le sous-sol, aménager le parking. Et faire un drain le long de la chapelle pour éviter les infiltrations dans le sous-sol. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, les textes liturgiques aujourd'hui sont d'une particulière richesse. Il y a une phrase très importante. À la fin de l'Évangile, il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il faut bien comprendre cette parole, et beaucoup de nos fidèles parfois la comprennent de travers. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il n'est pas dit, ne cherchez que le royaume de Dieu et moquez-vous des choses matérielles. Ce n'est pas ce que dit notre Seigneur. Notre Seigneur nous dit, cherchez d'abord les choses spirituelles et ensuite les choses matérielles. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire... L'âme est plus importante que le corps. On a une double vie. On a une vie spirituelle, la vie de l'âme. On a une vie matérielle, la vie du corps. Et la vie spirituelle est plus importante que la vie de l'âme, que la vie, pardon, du corps, parce que l'âme contrôle le corps. Malheur à ceux qui ont un corps qui contrôle l'âme. Le monde moderne, c'est un monde qui s'occupe que du corps. Le monde spirituel, le monde de l'Église catholique, c'est un monde qui s'occupe des deux, mais avec une hiérarchie des valeurs. D'abord, le bon Dieu, ensuite, les choses matérielles. Donc, il ne faudrait pas croire que, parce que nous sommes catholiques, nous n'avons plus à nous occuper des choses matérielles. J'ai rencontré ces erreurs plusieurs fois dans ma vie sacerdotale. Parfois, des très bonnes familles, mais qui ne comprennent pas cette phrase. Je connais deux familles comme ça, d'autres pays, et les parents disaient, ce qui compte, c'est l'âme. Le corps, aucune importance. Donc, la maman faisait l'école à la maison, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle apprenait le catéchisme aux enfants, et la musique, c'est tout. Résultat, les enfants étaient pratiquement analphabètes. Eh bien, je ne pense pas que ce soit la volonté du bon Dieu. Bien sûr, il faut connaître le catéchisme, bien sûr, il est capital de connaître son catéchisme, qui est la chose la plus importante. Mais il faut aussi que les parents s'occupent de leur devoir d'État pour que les enfants soient capables de vivre dans le monde en luttant contre l'esprit du monde. Le bon Dieu ne nous demande pas d'aller vivre dans une grotte au sommet d'un arbre. Le bon Dieu nous demande de vivre dans la pratique dans un monde qui est complètement hostile à la foi et d'avoir une foi suffisamment forte pour pouvoir protéger cette foi contre les attaques du démon, les attaques de la chair, les attaques des trois concupiscences. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai rencontré d'autres erreurs. Il y a plusieurs erreurs qui peuvent être commises par les parents dans ce domaine. J'ai connu une autre famille, des gens avec d'énormes qualités. Ils avaient littéralement transformé leur maison en monastère. Alors, ils disaient le rosaire tous les jours, les trois chapelets tous les jours avec les enfants. Ils priaient toute la journée. Les résultats des courses, ben, dès que les enfants avaient 18 ans, ils s'en allaient en courant. Il faut un équilibre, mes bien chers frères. Il faut un équilibre, mais il est certain que le bon Dieu, parfois, dans certains cas, demande de l'héroïsme. On nous parle beaucoup aujourd'hui des persécutions. Je ne sais pas si elles vont arriver, les persécutions physiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des persécutions morales qui sont peut-être plus difficiles à supporter. Je vais vous donner quelques exemples, des choses que j'ai vues dans ma vie de prêtre, certains exemples que vous connaissez déjà. À New York, quand je suis arrivé à la chapelle de New York, à Connecticut, une des toutes premières retraites que j'ai prêchées là-bas, on a eu un jeune avocat qui est arrivé. Il venait de passer le barreau de New York et il commençait à plaider. Et en traite, il m'a dit, monsieur l'abbé, il y a un petit problème technique qui se pose. Parce que dans les cours de justice de New York, tout le monde ment. Tous. Depuis en haut jusqu'en bas. Depuis les juges jusqu'aux derniers avoués, tout le monde ment. Et tout le monde sait que tout le monde ment. Et avant chaque plaidoirie, on est obligé de mettre la main sur la Bible en disant, je dirais toute la vérité, rien que la vérité et que la vérité. Tout le monde sait que ça ne veut rien dire. Monsieur l'abbé, si je mens pas, je perds tous mes procès. Je fais quoi? Je lui ai expliqué, je lui ai dit, je crois qu'il y a dans les commandements un commandement, le septième, qui dit, tu ne mentiras pas. Et il m'a demandé, on est obligé parce que maintenant, ben oui, comme les autres. Eh bien, il a dû se remettre aux études. Il a arrêté de plaider, il a pris ses études et il est devenu comptable. Inutile de vous dire qu'il a diminué son salaire par 10. Hein. Ça, c'est de l'héroïsme. Et ça s'apparente au martyr. Et parfois, le bon Dieu peut nous demander des choses comme ça. Autre exemple, un exemple magnifique que j'ai rencontré aussi dans ma vie de prêtre ailleurs, une jeune fille, 25 ans. Elle était très amoureuse d'une très belle âme, un homme bien catholique, bien traditionnel. Mais sa vieille maman, la vieille maman de cette jeune fille, est tombée très malade, s'est retrouvée gravateur. Alors la jeune fille a dit à son fiancé, écoute, il faut que je m'occupe de ma vieille maman. Alors, on ne peut pas se marier tout de suite à cause de ça, parce que ma vieille maman va me prendre tout mon temps, et il faut que je m'en occupe. Alors, il faut attendre. Petit problème technique, La maman, elle a survécu 25 ans. Pendant 25 ans, cette jeune fille s'est occupée avec amour de sa vieille maman. Et quand la vieille maman est morte, au bout de 25 ans, elle est à la cinquantaine, 55 ans même. Et évidemment, son fiancé avait attendu pendant un an, puis il avait fini par se marier, fonder une famille. Et cette jeune fille n'a jamais pu se marier. Ça, c'est de l'héroïsme. Et ça s'apparente au martyr, mes bien chers frères. Et c'est exactement la phrase de l'évangile d'aujourd'hui, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est là toute l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Il faut former nos enfants, mes bien chers frères, pour que le jour où ils ont un choix à faire, Dieu ou le monde, ils comprennent librement qu'il faut sauver l'âme d'abord. Même si ça entraîne des complications terribles et des difficultés financières, des difficultés matérielles énormes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du corps, mes bien chers frères. Il faut d'abord s'occuper de l'âme. Il faut former nos enfants pour que nous devenions des héros. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile? Se faire manger par un lion avec un grand sourire, comme au début de l'histoire de l'Église, quand il y a eu 14 millions de martyrs, depuis Néron à Dioclétien? Ou supporter ce genre de persécutions par lesquelles nous devons tous passer, par lesquelles nous passerons de plus en plus, jour après jour, dans le monde moderne? Je pense, bien chers frères, que ces persécutions par lesquelles nous devons passer aujourd'hui sont certainement plus pénibles. Mais Dieu nous donnera les grâces si je considère cette phrase « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et pour mettre les points sur les i et les bases sur les t, notre Seigneur Jésus-Christ va insister avec une autre phrase très importante. « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Ou il adorera le premier et il haïra le second, où il haïra le premier et adorera le second. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, c'est-à-dire que nous sommes obligés de faire un choix. J'en ai déjà souvent parlé parce que c'est un thème qui revient presque tout le temps dans les évangiles. Dieu nous oblige aujourd'hui à faire un choix. Je vous l'ai expliqué, je crois, dimanche dernier. On est obligé d'adorer quelque chose, quelqu'un. Soit on adore le monde, soit on adore notre Seigneur Jésus-Christ. Soit on suit la loi des droits de l'homme, soit on suit la loi des droits de Dieu, mais pas suivre les deux à la fois, c'est absolument impossible. Et donc, il faut comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Je ne peux pas servir à la fois le Dieu du monde, le Dieu de la République, le Dieu des trois concupiscences, de la chair, de l'orgueil, des yeux, et en même temps notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas à la fois adorer le monde et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, crucifié pour nous le vendredi saint sur le mont Calvaire. Et pour être sûr que nous comprenions bien ces choses-là, l'Église insiste encore. Avec l'Épître aujourd'hui, l'Épître aux Galates de Saint Paul, chapitre 5. Et pour nous montrer justement, c'est peut-être plus facile à comprendre ainsi, pour nous montrer justement qu'il y a un choix à faire, l'Église, par Saint Paul, va nous donner cette longue liste des fruits de la chair et cette longue liste des fruits de l'esprit. Relisez-la, cette liste. C'est le monde moderne. Les œuvres de la chair, dit Saint Paul, impudicité, impureté, libertinage, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, etc. et autres choses semblables. C'est le monde moderne. En face de ça, il y a les fruits de l'esprit. Écoutez, la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la longanimité, la douceur, la fidélité, la modestie, la continence, la chasteté. Et Saint Paul insiste lourdement, je vous le dis et je vous déclare, que ceux qui suivent les fruits de la chair ne posséderont point le royaume des cieux. Ce qui était vrai au temps de Saint Paul est encore plus vrai aujourd'hui, mes bien chers frères. Alors il nous faut absolument, impérativement, comprendre ces choses, parce que, encore une fois, personne ne peut, celui qui n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ est contre notre Seigneur Jésus-Christ. Le drame, j'en ai déjà souvent parlé, je n'ai pas besoin d'insister, le drame est ce que beaucoup de personnes, hélas, dans la foi catholique d'aujourd'hui, comprennent ces choses pour le dimanche. Et on dit, monsieur l'abbé, le dimanche de 10h à 11h30, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut vivre comme un catholique. Et je suis un bon catholique le dimanche de 11h, de 10h à 11h30. Et monsieur l'abbé, pendant la semaine, vous comprenez, on est obligé de vivre dans le monde. Donc le dimanche, je vis comme un catholique de 10h à, de 10h à 11h30, et puis pendant la semaine, ben, je vis comme un païen. C'est pas possible. Et vous voyez, c'est à cause de ces éléments-là que le bon Dieu nous demande aujourd'hui l'héroïsme. Nous devons former nos enfants pour qu'ils deviennent des héros de la foi. Nous devons former nos enfants pour qu'ils se préparent à ce martyr épouvantable, bien plus difficile, je crois, que les martyrs des débuts des siècles, du début des siècles, du premier siècle de l'Église. Et une autre phrase qu'on peut utiliser... Celui qui est au Christ, nous dit saint Paul, doit crucifier sa chair avec ses vices et ses concupiscences. Le mot crucifier est très fort. Il faut littéralement clouer à la croix du bon Dieu notre chair avec ses vices et ses concupiscences. Ça veut dire clouer à la croix notre volonté propre. Faire un choix. Je vous ai souvent donné cet exemple, certainement un des plus clairs que j'ai rencontré dans l'histoire de l'Église. Je vous ai souvent cité cet exemple d'un bandit qui s'appelait Melanchthon, un disciple de Luther. Mais il disait cette phrase extraordinaire qu'il a sortie une fois à sa vieille maman. Il avait une vieille maman qui était encore catholique, qui ne comprenait rien du tout, et qui a demandé à son fils, entre ces deux églises, là, qui a maintenant la protestante et la catholique, c'est laquelle qui est la meilleure? Réponse de Melanchthon, pour vivre, la protestante. Pour mourir, il vaut mieux le catholique. Celui-là, il a tout compris. Problème, il est mort comme protestant. Il est mort comme protestant. Oh, mes chers frères, est-ce que cela veut dire qu'il faut se décourager complètement? Bien sûr que non. Mais il faut comprendre où est l'enjeu. Il faut comprendre où est le combat. C'est un combat terrible, mes chers frères. Et ne pas se décourager en se disant, mais on est très peu nombreux. C'est vrai qu'on est très peu nombreux. Mais encore une fois, Dieu a jamais prêché le nombre. Il a jamais dit que l'immense majorité des gens se sauveraient. Il a dit l'inverse. Large est la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui vont la prendre. Étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Et toutes ces phrases extraordinaires, toutes les phrases extraordinaires de l'Évangile qui tournent autour de ce même thème. Celui qui n'est pas avec notre Seigneur est contre notre Seigneur. On peut pas faire un choix. On peut pas choisir les deux à la fois. C'est pas possible. On peut pas être la main droite avec notre Seigneur Jésus-Christ, la main gauche avec le monde. C'est pas possible. Bien sûr, le bon Dieu nous demande de vivre dans le monde. Mais il nous demande de vivre dans le monde avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ? Il a dit expressément, celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire la sieste toute la journée? Celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, dans ce cas-là, notre vie va devenir... misérable? Mais pas du tout. Demandez aux gens du monde. Demandez aux gens du monde. Ils comprennent rien. Je vous donne un exemple. Cet exemple, je le donne souvent en retraite, mais je vais vous le donner à vous, parce que je crois pas que je vais avoir déjà donné un sermon. Une fois, j'attendais un avion à Dallas. Je venais de prêcher une retraite à Houston, dans le Texas. Et j'étais à Dallas, j'attendais un deuxième avion pour... retourner dans ma paroisse à Albuquerque à l'époque, Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis. Je m'étais mis dans un coin tranquille de l'aéroport, parce que, je vous le dis, mon revient. J'avais plusieurs heures d'attente avant d'attraper mon deuxième avion. J'étais en train de dire mon revient tranquillement, j'étais en soutane, bien sûr. Ouais, monsieur qui arrive, il me voit en soutane. Manifestement, il n'avait jamais vu une soutane de sa vie, il a dû penser que je venais de la planète Mars. Il a commencé à tourner autour de moi, en me regardant comme si j'étais un éléphant blanc. Alors, au bout d'un certain temps, je remarque son petit manège, je le regarde et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Et il m'a dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Il dit, mais bien sûr, je m'en repars, rassurez-vous, vous pouvez vous asseoir. Puis il me dit, est-ce que je peux vous poser des questions? Bon, je dis, mais oui, bien sûr. Première question qu'il m'a posée, c'est un traduisible, il m'a dit, t'es qui toi? En gros, c'était ça. T'es qui toi? Alors, j'essaie de lui expliquer que j'étais ministre de notre Seigneur Jésus-Christ et que j'étais prêtre catholique, mais c'est comme si je parlais hébreu, il ne comprenait rien. Parce que ce n'était pas son niveau. Alors, il voulait comprendre. Il m'a dit, mais excusez-moi, mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que je peux vous poser des questions moi-même? Allez-y. Combien tu fais? Aux États-Unis, c'est le plus important. Combien tu fais? Je lui dis, zéro, je ne suis pas payé. Il m'a regardé, mais avec des yeux ronds. Puis il me dit, mais tu as une épouse? Non. Tu as une grande maison avec une piscine et un terrain d'atterrissage pour l'hélicoptère? Non. Tu es heureux? Oui, parfaitement. Alors je l'ai regardé, je lui dis, est-ce que je peux vous poser des questions? Et je lui ai dit, vous faites combien? Il ne m'a pas répondu. Mais manifestement, c'était quelqu'un qui faisait un chiffre à six chiffres, comme on dit aux États-Unis. Au moins 100 000 euros, 100 000 dollars par an. Il n'y a pas de problème de fin de mois, manifestement. Après, je lui ai dit, vous avez une femme? Oui. Vous en avez combien? Il n'a pas voulu me dire, mais enfin, manifestement, il y en avait plus qu'une. Vous avez une grande maison avec une piste d'atterrissage pour l'aéroport et une grande piscine? Oui. Vous êtes heureux? Non. C'est ça le monde, mes chers frères. Il est parti en disant, ce prêtre, il est complètement fou. Et moi, je suis resté à finir mon voyage en disant, ce pauvre gars, il est complètement fou. Parce qu'il leur manque l'essentiel. Oui, mes chers frères, je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager. Et ne pas croire que c'est les choses du monde qui vont, les biens du monde qui vont nous rendre vraiment heureux. La seule personne, mettez-vous ça dans la tête, la seule personne qui ne vous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Les hommes, toujours d'une façon ou d'une autre, tout le monde vous décevra, moi le premier. Parce qu'on n'est pas parfait. Et si justement on comprend qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, à ce moment-là, tout le reste, mes bien chers frères, peut tomber en place. Et c'est ça qu'il faut comprendre à chaque fois que vous venez dans cette chapelle, mes bien chers frères. Vous devez laisser à la porte tous vos problèmes. Je compare souvent, j'ai souvent ça au confessionnal aux gens qui viennent se confesser. Et cette chapelle, il faut qu'elle soit un peu comme une station-service spirituelle. On vient ici pour remplir le réservoir. Parce qu'on ne sait pas très bien combien de kilomètres il va falloir faire avant qu'on puisse trouver une deuxième station service spirituel. On remplit le réservoir, on vérifie tous les niveaux et on continue. C'est un peu ça. Il faut, mes bien chers frères, que cette petite chapelle, toute humble qu'elle soit, devienne pour chacun d'entre nous, je dirais, le lieu de paix, le lieu de la charité, le lieu où nous puissions rencontrer toutes ces vertu dont parle Saint Paul, il commence par quoi? Charité, joie et paix. Tous ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace doivent se rappeler les règles de discernement des esprits. Rappelez-vous ce que dit Saint-Ignace de Loyola. Dans ces règles de discernement des esprits qu'on explique un peu tous les jours pendant les retraites, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les signes de la consolation, c'est-à-dire les signes de la vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, le premier signe, dit-il, c'est la joie. La joie, dit-il, la paix, la lumière, l'attraction vers les choses belles. Et ensuite, il explique les signes que je suis sous l'influence du démon. D'abord, la tristesse, dit-il. La tristesse, l'obscurité, l'attraction vers les choses laides la confusion. Eh bien, cher frère, il faut qu'il y ait en nous cette joie. Je comprends que les gens du monde soient tristes comme un balai. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient comme joie? Ils n'ont rien. Ils ont tout perdu. Mais nous, on a notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, on a le bon Dieu dans le tabernacle. Avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. On a avec nous, mes bien chers frères, la possibilité de nous incorporer ce Dieu par la Sainte Communion. Quand on a commis une faute, eh bien, on a confessionnal. Et je vais finir par un autre exemple que j'ai peut-être déjà donné. Je ne me rappelle plus si je l'ai donné en sermon. Une des choses les plus qui m'a le plus marqué dans mon sacerdoce, j'étais à Albuquerque, aux États-Unis, dans ma chapelle là-bas. Il y a des années. J'étais à la messe en semaine, il y avait quelques personnes à la messe, pas beaucoup, c'était la semaine. Puis pendant la messe, il y a un monsieur qui est arrivé, je n'avais jamais vu, qui s'est agenouillé au fond de la chapelle, sans un mot. Je termine la messe, je passe à la sacristie pour enlever les vêtements sacerdotaux. Je ressors et ce monsieur était toujours là, il était tout seul dans la chapelle, tous les autres étaient partis. Et au fond de la messe, au fond de la chapelle, il pleurait. Donc je vais le voir et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider en quelque chose, monsieur? Il m'a dit, mon père, j'ai grandement besoin de me confesser. Je lui dis, mais je vous confesse tout de suite. Je vais au confessionnal qui est au fond de la chapelle, je mets le surplis, l'étole, je ferme la porte du confessionnal, j'attends, il ne vient pas. Donc je ressors au bout de quelques minutes et je lui dis, venez, n'ayez pas peur, je vais vous aider. Venez vous confesser, je vais vous aider. Et il me répète la même chose, mon père, j'ai grandement besoin de me confesser. Je lui dis, mais venez donc, je vais vous aider. Je retourne au confessionnal, il ne vient pas. Je ressors et je l'encourage de nouveau. N'ayez pas peur, je vais vous aider. Il me répète la même chose, j'ai grandement besoin de me confesser. J'insiste, il me regarde et il me dit, je suis protestant. Ah, effectivement, il y a un problème technique. Je n'ai pas juridiction, c'est protestant. Je ne pouvais pas le confesser. Et je lui ai dit, écoutez, effectivement, je ne peux pas vous confesser, parce que vous n'êtes pas catholique. Cependant, ne vous découragez pas, je vais parler du baptême, de la confession de désir. Je lui dis, je vais vous aider, vous allez venir me voir, et puis peut-être qu'on pourrait vous préparer justement à ce que vous trouviez le chemin de la foi catholique. Et il m'a dit, non, monsieur l'abbé, c'est pas possible. Et il est parti en pleurant. Et c'est ce jour-là, j'ai compris quelque chose, la grandeur de la foi catholique. Je savais déjà que la foi catholique était grande. C'est là où j'ai compris, mais est-ce que nos fidèles se rendent compte de ce qu'ils ont avec le confessionnal? Quand vous rentrez dans un temple protestant, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est vide. Quand vous rentrez dans une église moderne, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est vide aussi. Quand vous rentrez dans cette humble petite chapelle, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ est là. Avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Le même Dieu qui, dans son humanité, est mort sur la croix le vendredi saint pour chacun d'entre nous. Vous avez le confessionnal, vous avez la croix, vous avez l'autel, vous avez la Sainte Vierge. Tout ce qu'il faut. Utilisez tout ça. Utilisez la confession, utilisez la Sainte Vierge, utilisez la croix, utilisez le sacrifice de la croix qui se renouvelle sur l'autel. Et à ce moment-là, vous aurez tout ce qu'il faut justement pour vous battre. Et si le bon Dieu nous demande cet héroïsme dont je viens de vous parler, si le bon Dieu nous demande ce martyr de la volonté propre d'aujourd'hui, eh bien nous aurons toutes les grâces nécessaires pour remplir toutes nos obligations. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces tellement importantes par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Rappelez-vous, j'ai terminé par ça dans la vie de Saint Curé d'Ars. Une fois, après la messe, il parlait avec les fidèles. Il y avait un groupe d'Anglais qui était là. Il était venu d'Angleterre. Il était catholique. Il s'était confessé avec le Saint Curé d'Ars. Ils avaient avec eux un protestant. Donc ils présentent le protestant au Saint Curé d'Ars. Et le Saint Curé d'Ars prend le protestant comme ça dans ses mains et dit, pauvre protestant, vous n'avez ni la messe, ni la confession, ni la Sainte Vierge. Le protestant est parti, il ne s'est pas converti. Nous avons tout, mes bien chers frères. Alors, pour obtenir toutes ces richesses extraordinaires dont je viens de vous parler, la confession, la messe, la croix, la très sainte Vierge Marie, il faut justement passer par celle que le bon Dieu a mis au pied de la croix. Celle qu'il a voulu être non seulement sa mère, mais la médiatrice de toutes les grâces. Il ne faut pas oublier ça. Elle est médiatrice de toutes les grâces, elle est co-rédemptrice du genre humain. C'est ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 2000 ans. Elle est co-rédemptrice du genre humain, c'est-à-dire que Dieu utilise sa mère pour nous associer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa propre passion. En demandant, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.